maître laissa entrer les nouveaux venus et ne s'avança pas tant que l'abbé, selon le rite, ne les avait pas salués. Puis il se porta à la rencontre du groupe et ce fut une suite d'embrassements et de saluts fraternels. L'heure du réfectoire était déjà passée, mais une table avait été dressée pour les hôtes et l'abbé eut la délicatesse de les laisser entrer eux et seul avec Guillaume, dispensés des devoirs de la règle, libres de se nourrir et d'échanger concurremment leurs impressions, vu qu'il s'agissait au fond, que Dieu me pardonne le déplaisant rapprochement, d'une manière de conseil de guerre, à tenir au plus tôt avant que n'arrivât l'hôte ennemi, c'est-à-dire la légation avignonnaise. Inutile de dire que les nouveaux venus s'abouchèrent aussi dès leur arrivée avec Hubertin, qu'ils saluèrent tous, pleins de la surprise, de la joie et de la vénération, qui étaient dues et à sa longue absence et aux craintes qui avaient accompagné sa disparition et aux qualités de ce courageux guerrier qui, depuis des lustres, avait déjà combattu avec eux une même bataille. Des frères qui composaient le groupe, j'en toucherai un mot par la suite en relatant la réunion du lendemain. C'est qu'aussi je parlais très peu avec eux, pris comme je l'étais par le conseil à trois qui s'établit sur le champ entre Guillaume, Hubertin et Michel de Cézanne. Michel devait être un bien curieux homme. D'une grande ardeur dans sa passion franciscaine, il avait parfois les gestes, les accents d'Hubertin dans ses moments de ravissement mystique, très humain et jovial dans sa nature terrestre d'homme des Romagnes, susceptible d'apprécier la bonne chère et heureux de se retrouver avec ses amis. Subtil et évasif, devenant soudain avisé comme un renard, sournois comme une taupe, quand on effleurait les problèmes de rapport entre les puissants. Capable de grands éclats de rire, de ferventes tensions, de silences éloquents. Habile à détourner son regard d'un interlocuteur lorsque la question de celui-ci exigeait de masquer, par la distraction, le refus de répondre. À son propos, j'ai déjà dit quelques mots dans les pages précédentes. Et c'était des choses que j'avais entendu dire, peut-être par des gens à qui on les avait racontées. Maintenant, je comprenais mieux nombre de ces attitudes contradictoires et des changements subis de dessein politique, grâce à quoi, ces dernières années, il avait stupéfait jusqu'à ses amis et disciples. Ministre général de l'ordre des frères mineurs, il était en principe l'héritier de Saint-François, de fait l'héritier de ses interprètes. Il devait rivaliser avec la sainteté et la sagesse d'un prédécesseur comme le docteur Séraphique. Il devait garantir le respect de la règle, mais en même temps les destinées de l'ordre, si puissant et diffus. Il devait prêter l'oreille aux cours et aux magistratures citadines d'où l'ordre retirait, fût-ce sous forme d'aumônes, dons et legs, occasion de prospérité et richesse. Et il devait, simultanément, veiller à ce que le besoin de pénitence ne boutât point hors de l'ordre les spirituels les plus enflammés, désagrégeant cette splendide communauté dont il était le chef, en une constellation de bandes d'hérétiques. Il devait plaire au pape, à l'Empire, aux frères de pauvre vie, à Saint-François qui pour sûr le surveillait du haut des cieux, au peuple chrétien qui le surveillait du haut de ses galoches. Quand Jean avait condamné tous les spirituels comme hérétiques, Michel n'avait pas hésité à lui remettre cinq d'entre les plus récalcitrants frères de Provence, laissant le pontife les envoyer au bûcher. Mais, s'avisant, et l'action d'Hubertin ne devait pas avoir été étrangère à cela, que beaucoup dans l'ordre sympathisaient avec les disciples de la simplicité évangélique, il avait justement agi en sorte que le chapitre de Pérouse, 4 ans plus tard, fit sienne les instances des brûlés. En cherchant naturellement à résorber un besoin qui pouvait être hérétique dans les limites et dans les institutions de l'ordre, et en voulant que ce que l'ordre voulait maintenant fût voulu par le pape aussi. Mais tandis qu'il attendait de convaincre le pape sans l'accord duquel il n'aurait pas voulu aller plus loin, il n'avait pas dédaigné d'accepter les faveurs de l'empereur et des théologiens impériaux. Pas plus tard que 2 ans avant le jour où je le vis, il avait enjoint à ses frères, dans le chapitre général de Lyon, de ne parler de la personne du pape qu'avec modération et respect. Et ce, quelques mois après que le pape avait parlé des minorités en protestant contre leurs aboiements, leurs erreurs et leurs insanités. Mais maintenant il était attablé en toute amitié en compagnie de gens qui parlaient du pape avec un respect moins que nul. Quant au reste, je l'ai déjà dit. Jean le voulait en Avignon, lui, il voulait et ne voulait pas y aller, et la rencontre du lendemain aurait dû décider les conditions et les garanties d'un voyage qui n'eût pas dû apparaître comme un acte de soumission, mais non plus comme un acte de défi. Je ne crois pas que Michel eût jamais rencontré Jean en personne, du moins depuis qu'il était pape. En tout cas, il ne le voyait pas depuis fort longtemps si ses amis à qui mieux mieux lui portraituraient en touche noire la figure de ce simoniaque. « Il faudra que tu apprennes une chose, lui disait Guillaume, à te défier de ses jurements, qu'il tient toujours à la lettre en les violant dans leur substance. » « Tout le monde sait, disait Hubertin, ce qui arriva au temps de son élection. Je ne l'appellerai pas élection, mais plutôt imposition, intervint un commensal que j'entendis ensuite appeler Hugues de Newcastle et dont l'accent ressemblait à celui de mon maître. En attendant, la mort de Clément V n'a jamais été très claire. Le roi ne lui avait jamais pardonné d'avoir promis un procès à la mémoire de Boniface VIII et puis d'avoir tout fait pour ne pas désavouer son prédécesseur. Comment il est mort à Carpentras, personne ne le sait bien. Le fait est que lorsque les cardinaux s'assemblent à Carpentras pour le conclave, il n'en sort pas de nouveau pape, parce que, et justement, la dispute se déplace sur le choix entre Avignon et Rome. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé en ces jours-là. Un massacre, me dit-on, avec les cardinaux menacés par le neveu du pape mort, leurs serviteurs trucidés, le palais livré aux flammes, les cardinaux qui en appellent au roi, celui-ci qui dit n'avoir jamais voulu que le pape déserte à Rome, que donc il patiente et fasse un bon choix. Puis Philippe le Bel meurt, lui aussi, Dieu sait comme. Oh, le diable le sait, admit Hugues en ricanant. Bref, un autre roi accède au trône, il survit 18 mois, meurt aussi en quelques jours son héritier à peine né, son frère le régent s'empare du trône, et c'est précisément ce Philippe V qui, encore comte de Poitiers, avait regroupé les cardinaux qui s'enfuyaient de Carpentras, dit Michel. En effet, poursuivit Hugues, il les remet en conclave à Lyon dans le couvent des Dominicains en jurant de veiller à leur sécurité et de ne point les retenir prisonniers. Cependant, à peine ils se mettent à sa merci, non seulement il les fait enfermer à clé, ce qui serait après tout de juste coutume, mais il diminue leur pitance de jour en jour, jusqu'à ce qu'ils prennent une décision, et il promet à chacun de le soutenir dans ses prétentions au Saint-Siège. Puis, quand lui-même monte sur le trône, les cardinaux, las d'être prisonniers depuis 2 années, par crainte d'avoir à rester là leur vie entière même, en mangeant d'une façon épouvantable, ils acceptent tout, les goulus, et mettent sur la chair de pierre ce gnome qui a largement passé les 70 ans. Gnome, certes, oui, rit Hubertin, et d'aspect poitrinaire, mais plus robuste et plus rusé qu'on ne croyait. Fils de savetier, bougonna un délégat. Christ était fils de menuisier, le tança Hubertin. Ce n'est pas là le fait. Il s'agit d'un homme cultivé. Il a étudié son droit à Montpellier et médecine à Paris. Il a su cultiver ses amitiés en employant les moyens les plus appropriés pour avoir et les sièges épiscopaux et le chapeau de cardinal quand cela lui parut opportun. Et lorsqu'il a été conseiller de Robert le Sage à Naples, il en a épaté plus d'un pour sa pénétration d'esprit. Comme évêque d'Avignon, il a prodigué tous les justes conseils, juste dis-je, pour réussir cette sordide entreprise à Philippe le Bel afin d'amener les Templiers à la ruine. Et après son élection, il a réussi à échapper à un complot de cardinaux qui voulait l'oxyre. Mais tel n'était pas mon propos. Je parlais de son habileté à trahir les jurements sans qu'on le puisse accuser de parjure. Quand il fut élu, et pour être élu, il a promis au cardinal Orsini qu'il aurait ramené le Saint-Siège à Rome. Et il a juré sur le sty consacré que s'il n'avait pas tenu sa promesse, il ne serait plus jamais monté sur un cheval ou sur une mule. Eh bien, savez-vous ce qu'il a fait le renard? Quand il s'est fait couronner à Lyon, contre la volonté du roi qui désirait que la cérémonie eût lieu en Avignon, il a pris le bateau ensuite, de Lyon à Avignon. Les frères se mirent tous à rire. Le pape était un parjure, mais on ne pouvait lui refuser une certaine ingéniosité. « C'est un impudent, commenta Guillaume. Hugues n'a-t-il pas dit qu'il ne tenta même pas de cacher sa mauvaise foi? Ne m'as-tu pas raconté, toi, Hubertin, ce qu'il a dit à Orsini le jour de son arrivée en Avignon? Certes, dit Hubertin. Il lui dit que le ciel de France était si beau qu'il ne voyait pas pourquoi il devrait poser le pied dans une ville pleine de ruines comme Rome. Et que puisque le pape, comme Pierre, avait le pouvoir de lier et de délier, lui qui exerçait ce pouvoir maintenant, il décidait de rester là où il était et se trouvait si bien. Et comme l'Orsini chercha de lui rappeler que son devoir était de vivre sur la colline vaticane, il le rappela sèchement à l'obéissance et coupa court à la discussion. Mais l'histoire du jurement ne finit pas là, quand il descendit du bateau. Il aurait dû monter une jument blanche et vit les cardinaux montés sur des chevaux noirs, comme veut la tradition. En revanche, il s'est rendu à pied au palais épiscopal. Et je ne sache pas qu'il ne soit vraiment plus remonté à cheval. Or, c'est sur la foi de cet homme-là, Michel, que se fondent les garanties que tu auras.